Déjà, il y a une semaine, donc je suis d'abord allé sur Paris pour la rencontre du réseau Nouvelle Connexion, dans lequel fait partie cette église. Et il y a Denis Boucher qui m'a rejoint une journée pour l'Assemblée Générale. Et donc, comme je vous l'ai annoncé, donc maintenant, ça y est, après une année probatoire, en tant qu'église faisant partie de ce réseau, et nous sommes officiellement donc intégrés et donc dans ce Nouvelle Connexion et par ce biais à la communion des églises évangéliques francophones. Donc, il faisant partie aussi du CNEF et de la Fédération protestante de France. On a eu un très bon temps convivial. Il y a eu les équipes. Donc, chaque réseau a une équipe qui gère ce réseau, qu'on appelle équipe apostolique. On faisait partie nous-mêmes en tant qu'Église Josué du réseau Héritage, avec lequel on travaille depuis plus de 20 ans. Et ce réseau, donc, les responsables des différents réseaux se sont vus à Paris le jeudi soir et le vendredi, c'était pour une rencontre sur le thème « Les œuvres ». Incarnation du royaume. Et donc on a réfléchi ensemble sur la thématique des œuvres et on a bien vu qu'il n'y avait pas à séparer, et je vais en parler un peu ce matin, la notion d'œuvre et la notion d'adoration. Et il n'y a pas à séparer la notion de cultuel et de culturel. Les deux se soutiennent mutuellement, les deux expriment l'autre et nourrissent l'autre. Donc voilà, c'était un temps fort. Denis, on a bien apprécié tous les deux ce temps-là. Et je peux dire qu'on est dans des solides filets d'amitié, de ministère. Et voilà, c'est très très riche. Et j'aimerais déjà lancer un appel. Je pense en particulier aux jeunes au-dessous de 30 ans qui ont un appel sur leur vie. Et j'aimerais vraiment vous encourager à prendre au sérieux cette histoire d'université d'été qui a lieu tous les ans, 15 jours. Et sur deux étés, il y a une formation au ministère et à la responsabilité. Et elle est de qualité. Aurélie, donc, qui est partie au Québec, dont on a parlé ce matin à la fête. Et c'est vraiment une formation de qualité qui vous plonge dans un bain francophone et un bain d'onction et de ministère de tout ce réseau en particulier. Voilà, alors ce matin, j'avais à cœur de parler d'un texte. Il y a quelques années, on en a déjà parlé, mais j'aimerais le revoir ensemble. Ah oui, j'ai oublié, ah oui, pardon, la Hollande. Oui, alors ensuite, Manuela m'a rejoint, on est parti en Hollande, à la fois pour, on a eu deux jours de break après la semaine bien pleine, on a visité Amsterdam, ceux qui ne connaissent pas, il faut voir. C'est très très beau, très chouette, très, voilà, très romantique aussi, avec tous ces canaux, et puis ces musées, Van Gogh, etc. On s'est régalé. Et ensuite, il y avait plusieurs jours de conférences donc dans une école chrétienne à Apeldoorn, au centre des Pays-Bas. École chrétienne de 3000 élèves. Là-bas, les écoles chrétiennes, c'est un immense mouvement. On pourrait faire l'équivalent avec les 20% d'élèves en école catholique en France. C'est à peu près le même nombre, beaucoup d'écoles réformées, mais réformées, on appellerait ça chez nous réformées évangéliques, c'est-à-dire dans le sens que la parole, c'est la parole de Dieu, un profond respect pour sa parole. On a été accueillis par cette école, des élèves de lycée qui ont managé, qui ont organisé, qui ont fait les flyers, qui ont fait de l'organisation, c'est impressionnant. Et puis par ces délégations qui venaient de différents pays d'Europe, en particulier Roumanie, Hongrie. En Hongrie, un immense réveil au niveau d'écoles chrétiennes réformées aussi, mais aussi évangéliques. Roumanie, pareil. Donc c'était très riche, tous ces contacts. Et je suis intervenu pour un peu donner un point de vue sur ce qui se passe en francophonie, au sens large du terme, et puis aussi par rapport à la notion de tout ce qui se passe à Bruxelles, au niveau des rencontres que nous avons eues avec des parlementaires. Ce qui nous a touché, Manuela et moi, c'est pas seulement la qualité de ces écoles, l'immense, ils sont payés à 100% par le gouvernement, c'est des fonds, il y a une vraie liberté scolaire aux Pays-Bas, qui est due à leur tradition, donc leur tradition, pas seulement réformée, mais une tradition d'ouverture, si vous voulez, une tradition de pluralisme, une tradition que la liberté scolaire, c'est pour chacun. Et il n'y a pas de privilégiés, si vous voulez. Et donc vraiment, c'est impressionnant les facilités qu'ils ont et en même temps la vision qu'ils ont. On a entendu en particulier un parlementaire chrétien du Parlement des Pays-Bas. Vraiment, quand vous entendez ces gens enracinés dans la parole, aimant le Seigneur, parlant avec humilité, aimant leur pays, c'est impressionnant. On a l'impression vraiment d'être dans une autre planète. Qui se mélange entre le politique et la foi, on n'a pas tellement l'habitude, quoi. Ils ont des députés européens aussi, et c'est comme ça que le lien s'est fait. Ils sont bien conscients des difficultés que nous avons en France. Ils prient pour nous, ils nous soutiennent, et il y a une relation sûrement de partenariat qui vont de plus en plus se développer. Donc voilà, c'était très important au niveau stratégique. On a reçu vraiment du Seigneur, et pas seulement nous, mais plusieurs, que les Pays-Bas, dans les années qui viennent, ont vraiment un rôle clé à jouer pour toute l'Europe. C'est clair. Hein. Probablement la Hongrie aussi, mais ils ont un rôle à jouer. Ils sont des sentinelles au niveau des parlements, déjà européens, au niveau des lois, au niveau... Ils sont là, ils sont présents en tant que chrétiens. On ne peut pas dire qu'il y a la même chose au niveau représentativité pour d'autres pays. Donc voilà, on veut bénir les Pays-Bas, être reconnaissant. Et en voyant l'histoire des Pays-Bas, on était tellement humiliés de voir que nous, Français, on les a envahis régulièrement, on a semé la zizanie, on les a appauvris, on les a ravagés. Voilà. C'est vraiment ce petit pays, si vous voulez, qui bénit les autres, et nous, cet impérialisme qui a tellement meurtri, c'était difficile.
Au niveau de l'histoire, qui était profondément choquant dans tous les sens du terme, c'est qu'en fait, c'est un pays qui a démarré simplement en l'an 1000, et ce sont les protestants, en fait, qui l'ont géré, et ils avaient une gestion du pays très libre. Ils se sont toujours battus pour la liberté, mais la vraie liberté, c'est-à-dire la liberté qu'on voit dans l'évangile, du respect des autres, etc. Et après 1789, après notre révolution, on est allé les envahir et leur apporter notre soi-disant liberté, et suite à ça, ça a été la chute libre, ils ont été complètement appauvris, enfin bon, c'est incroyable. En tout cas, on vous enverra un petit compte-rendu par le net et le lien sur lequel vous pouvez aller écouter tout ce qui s'est dit là-bas. Alors, c'est en anglais, c'est vrai, mais vraiment, ça vaut le détour. Et on peut dire que du début jusqu'à la fin, c'était la première chose, Christ le centre, notre relation avec Dieu. Et c'était bouleversant de le voir dit sous tous les tons, dans toutes les formes, que ce soit pour l'école, que ce soit pour le Parlement, que ce soit pour tout. Christ, notre centre, et de là découle tout le reste.
Le texte que je vous propose ce matin, c'est dans Luc 10, 38, 42 et Jean 11. Donc je lis ce texte. Hein. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Et Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Et le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. » Alors je m'arrête là avant de lire le second texte. On connaît ce texte et c'est vrai que l'accent qui est mis sur attention à l'activisme, attention à toutes les activités, qui peuvent nous décentrer du rôle fondamental d'être au pied du Seigneur, de recevoir de lui, d'apprendre de lui, d'être dans l'adoration. Tout ça, on connaît ces dérives possibles. Mais il y a un texte étonnant qui suit dans l'évangile de Jean et qui nous met en question par rapport à une interprétation classique de ce texte qui ferait qu'on serait tenté d'opposer, si vous voulez, d'un côté l'attitude de Marie, qui est une attitude d'adoration, et de l'autre, l'attitude de Marthe qu'on qualifierait par des œuvres, quoi, hein, du travail pour Dieu, etc. Et on aurait vraiment la tentation de comprendre ce texte comme une opposition. Et c'est ce que j'aimerais casser ce matin, il n'y a pas d'opposition au niveau de ce texte, et on va en parler. Et dans Jean chapitre 11, verset 5, il est dit « Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». C'est étonnant que dans l'évangile de Jean, on a en premier Jésus aimait Marthe. On se sera attendu à ce que Jésus dise Jésus aimait Marie, et ensuite Marthe, et ensuite Lazare. Mais il dit il aimait Marthe. Et donc on se pose la question, on dit mais qu'est-ce qui touche Jésus? Qu'est-ce qui a touché dans le cœur de Jésus, le cœur de Jésus, pour l'attitude d'une Marthe? Est-ce qu'il ne l'avait pas reprise justement? Est-ce que ce n'était pas un exemple qu'il ne voulait pas qu'on reproduise? Et on pense toujours donc que c'est Marie qui est le personnage important pour Jésus. Et dans le texte, il est dit que Jésus aimait Marthe. Alors, pourquoi est-ce qu'il dit cela? Et je rappelle un principe fondamental, et je crois que c'est là une des clés pour comprendre ce passage, c'est que Jésus avait deux natures. Et cette première nature, il était pleinement Dieu. Jésus était pleinement Dieu, il est pleinement Dieu. Hein. Mais en même temps, il est pleinement homme. Il est pleinement homme. Et parfois, les gens, au temps de Jésus, ils ne savaient pas trop comment faire avec lui. Est-ce qu'il fallait le traiter comment? Comme un homme? Ou traiter sa nature divine? Comment marcher avec lui? Comment réagir avec lui? Et parfois, par exemple, Jésus est endormi au fond d'un bateau, il était fatigué. Donc ça, c'est sa nature humaine. Il est fatigué, il a besoin de repos. Et puis, il y a une tempête qui se lève, et alors on le réveille. Et là, il n'est pas très content parce qu'il est fatigué. Alors il se lève, il parle à la tempête, il dit « Maintenant, calme-toi », etc. Les disciples avaient peur et ils réveillent Jésus. Donc c'est un peu, il leur dit comme « Mais n'interromps pas ma sieste, peu de fois, tu bouleverses ma sieste là ». Et donc ça, c'est la nature humaine de Jésus. Et les vagues se calment, se couchent comme des petits chiens là. Et on a l'expression là de tout de suite sa nature divine qui commande aux éléments. Donc Jésus passe de l'un à l'autre sans arrêt. Nature humaine, nature divine, nature humaine. Parfois il dit cette phrase, les renards ont des tanières, hein, leurs tanières, je n'ai même pas un endroit où reposer ma tête. La nature humaine qui parle. Jésus est fatigué, il en a un peu marre de toujours changer de lieu. Nature humaine. Il exprime une frustration là. Hein. Il y a des moments où il avait faim. Et si vous pensez que Jésus n'était jamais frustré de n'avoir pas à manger quand il avait faim, il faut le demander, vous savez à qui ? Au figuier. Demande au figuier. Jésus, il a faim, il voit un figuier, il veut manger des figues, il n'y en a pas, qu'est-ce qu'il fait ? Il maudit le figuier, paf, terminé, il est mort. Donc, la nature humaine de Jésus, elle s'exprime très fortement aussi. Hein. C'est Matthieu 21. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, il n'y trouva point de feuilles, que des feuilles, et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. À l'instant, le figuier sécha. Donc voilà, la Bible dit que Jésus aimait passer du temps dans la maison de Marthe et Marie. Et dans cette maison, la clé, vraiment ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est qu'il savait accueillir dans cette maison la nature divine de Jésus aussi bien que la nature humaine de Jésus. Et c'est pourquoi il était bien, parce qu'il y avait des bons petits plats et parce qu'il y avait la reconnaissance qu'il était Dieu et il y avait cet honneur. Voyez. Dans certains endroits, il savait comment faire l'un et pas l'autre, mais dans cette maison, il avait un bon lit et il recevait une belle adoration. Il avait les deux. Et on va voir où ça va nous mener, mais Marie assise à tes pieds, Marthe qui préparait, qui se tracassait. Quand Jésus est dans la maison, c'est vrai. Et ça, c'est vrai, tout le monde devrait être à ses pieds. Mais quand la maison se prépare, écoutez bien là, quand la maison se prépare pour la venue de Jésus, alors Marie pourrait être à la cuisine aussi pour aider Marthe, afin que celle-ci n'ait pas à l'être quand Jésus était là. Et donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour adorer et il y a un temps pour préparer. Et on parlait de cadre tout à l'heure. Les travaux, ça fait partie de préparer. C'est pareil, hein. C'est pas opposé à l'adoration, voyez. Mais s'il y avait plus de Marie avec les Marthe dans le temps de préparation, il n'y aurait plus de Marthe au fourneau quand Jésus serait là. Et dans toutes les églises, il y a des Marie et il y a des Marthe. Et bien sûr, on a besoin des deux. Il n'y en a pas une qui soit meilleure qu'une autre. Et souvent, les Marie et les Marthe, elles ne s'entendent pas bien. Hein. Il y a Marie qui prie, « Oh Dieu, Seigneur, touche Marthe pour qu'elle soit là, couchée par terre avec moi, prier. » Et puis Marthe qui cuisine avec la farine dans le nez. Seigneur, touche Marie, si elle t'aime vraiment, qu'elle vienne m'aider à nourrir les prédicateurs, à les accueillir, à faire le boulot, quoi. Et il y a un temps pour chaque chose, et quand Jésus est à la maison, tout le monde devrait être à ses pieds. Mais quand on prépare la maison, alors les Marthe et les Marie, ensemble, devraient s'affairer. Il est dit que Jésus aimait Marthe. Et ce qu'a fait Marthe, c'était une adoration, je crois, aussi belle que celle de Marie. Sauf qu'il y a un temps pour tout. Mais les deux sont. On ne peut pas opposer œuvre et adoration. Voyez, on ne peut pas l'opposer. Mais sauf que Marthe, il y a un temps pour tout. Et Jésus voulait lui rappeler ça. Et quand il lui dit, tu t'agites, c'était l'agitation que Dieu a remise. Ce n'était pas le fait qu'elle l'est, qu'elle travaille. C'est le fait que la motivation, c'est l'agitation. Elle a un cœur qui n'est pas en paix. Quoi. Et ça, bien sûr, ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que l'œuvre découle d'une communion avec lui. Donc Marthe était une adoration aussi belle. Alors l'adoration, eh bien l'adoration, c'est pas seulement le chant et la prière, on adore par nos actions. On adore par nos actions, on adore par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, par ce qu'on construit. Et j'aimerais rappeler que quand j'étais en Roumanie, à Timișoara, il y a quelques années, j'ai été étonné de voir une chose, c'est les maisons des gens très pauvres, extrêmement pauvres. Et c'est, le niveau de richesse en Roumanie n'est pas élevé. Par contre, c'était flagrant de voir la richesse au niveau des églises, le contraste entre les maisons pauvres et les églises des riches, quoi. En fait, tout était mis pour le Seigneur, pour sa gloire, pour sa renommée, si vous voulez. Et ça, c'est tous les pays de l'Est où on retrouve ça. Et dans l'Occident, on retrouve un peu le contraire. C'est les belles maisons, souvent, mais la maison de Dieu, souvent, un peu plus pauvre. Donc, voyager pour Dieu, c'est l'adoration. Se lever tôt, c'est un acte d'adoration. Nos actions, quelles qu'elles soient, notre travail, notre vocation, c'est Luther qui a remis la notion de le travail, c'est pas un travail, c'est une vocation. Et c'est pour Dieu. Et tout ce qu'on fait, c'est pour Dieu. Donc tout ce qu'on fait, c'est une adoration. Marthe, comme Marie, adorait, mais de façon différente, des actions différentes. Et si on peut faire en sorte que Marthe et Marie vivent en paix, sous le même toit, alors on pourra appeler Jésus, et qu'est-ce qu'il fera? Il viendra, il prendra les Lazares qui sont morts, et il les ressuscitera. Je crois vraiment qu'il y a, dans cette cohésion des deux, de l'onction d'une Marthe et d'une Marie, quand elles sont ensemble et qu'on retrouve le temps pour toutes choses, mais ensemble, je crois qu'il y a de la puissance pour ressusciter les morts, là aussi. Dans nos vies, individuellement, et bien évidemment, on est parfois des Marthes et parfois des Maries. Il y a une tension chez nous, il y a toujours une tension. Hein. On passe du temps pour Dieu et puis il y a des choses à faire, mais il y a toutes ces choses qu'on fait pour Dieu, et ça aussi, c'est de l'adoration. Que l'on travaille pour gagner de l'argent, c'est aussi de l'adoration. J'aimerais dire que tout ça, c'est de l'adoration. Être un père de famille qui s'occupe de ses enfants, qui les change, qui se lève la nuit comme la mère de famille, c'est un acte, ça peut être un acte d'adoration aussi. Donc il n'y a pas de sacré et de profane, vous voyez, avec Dieu. Tout est pour lui, tout est par lui. Et je crois que là, il y a les vrais adorateurs. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans des temps où un vrai adorateur, ça peut être simplement un bon père de famille qui prend soin de sa femme et de ses enfants. Ça, c'est un adorateur. Attention à ne pas déconnecter l'adoration des faits tout simples de la vie quand on est fait pour Dieu et avec lui. Donc, tout ce que tu fais, c'est un acte d'adoration aussi. Donc, dans nos vies individuelles, c'est vrai que parfois, on a tendance à Marie, on penche vers Marie, parfois vers Marthe. Il y a des périodes aussi dans la vie, des périodes Marie, des périodes Marthe. Ne négligeons pas la partie faire, parce que les deux vont ensemble. Quand Jésus se sentait bien, c'est parce qu'il avait à la fois l'adoration de Marie, mais pour la cuisine, il avait Marthe. Et alors, l'application pour nous, c'est que l'adoration, si vous voulez, et l'hospitalité sont la même action, mais c'est deux dimensions différentes. L'adoration, c'est la capacité de faire en sorte que la divinité se sente bien. Et dans notre Église, on a mis l'adoration en premier parce qu'on veut que la divinité se sente bien, voyez. Et ça, c'est important. L'hospitalité, c'est la capacité de faire que l'humanité se sente bien. Alors vous allez me dire, mais attends, l'humanité, Jésus, il est plus là encore, en chair. Ben, la Bible dit, on se trompe, il est là. Nous sommes le corps de Jésus. Nous sommes le corps de Jésus. Prendre soin de l'humanité de Jésus, c'est prendre soin du corps de Christ en discernant le Christ dans le corps. Et ça, c'est des mots, c'est de l'attention, c'est des visites, c'est tout ça, prendre soin du corps. Prendre soin de la dimension humaine de cette Église. Et là, j'insiste là-dessus. Je crois qu'on est assez fort dans un domaine. Domaine louange, adoration. Et Dieu voudrait qu'on cultive l'accueil de l'humanité. Et l'accueil de l'humanité, c'est que quand on rentre dans un bâtiment, il est accueillant. Ça aussi, ça fait partie d'accueillir l'humanité. Donc les travaux qu'on fait à Caleb, c'est un acte d'adoration pour accueillir l'humanité, non seulement du corps de Christ, mais aussi l'humanité tout entière. Faire en sorte que les autres se sentent bien et que les visiteurs aussi puissent se sentir bien. Jésus, il est encore sur terre au travers de son corps. On peut avoir et Marie et Marthe dans une église. Et on aura de la crédibilité dans le ciel. Dieu vient. Et alors on aura aussi de la crédibilité sur la terre et les gens viendront. On a besoin d'avoir la crédibilité du ciel et de la terre. Et ces deux dimensions ne s'opposent pas. On n'oppose pas œuvre et adoration. Ça, c'est terminé, ça. C'est terminé. J'ai trop souvent entendu. Moi, je ne veux pas être une Marthe. Attention, Dieu n'oppose pas. Juste avant, il parle du Samaritain, là. Et le Lévite, qu'est-ce qu'il allait ? Il allait adorer. Il a dit, j'ai pas le temps de m'occuper de lui. J'ai la maison de prière, j'ai le culte, j'ai tout ça. J'ai pas le temps. Et à cause de ça, il est passé à côté de ce qu'on appellerait le travail social, l'œuvre. Voyez ? Donc, attention, jamais opposer les deux. Par contre, il est bien évident que les œuvres, elles se font à partir d'une communion. Elles sont le résultat. Elles sont un fruit. Elles sont un fruit. Elles ne sont pas pour gagner quelque chose de Dieu. Elles sont là parce que Dieu m'a touché et parce que son amour me pousse. Voyez, rappelez-vous Matthieu 25, le jugement des nations, le critère du jugement des nations. C'est le critère sur les œuvres. C'est impressionnant. Regardez, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Donc ça, ce sont ce qu'on appellerait des œuvres, en fait. C'est vraiment des œuvres. Les justes répondront, mais Seigneur, quand avons-nous avoir vu faim? Et avons-nous donné à manger? Ou avoir soif? Et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et avons-nous accueilli? Ou nu? Et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et ensuite il dira à ceux, etc. Donc vous avez cette notion, et le plus petit des frères, entre parenthèses, il s'agit dans le contexte du peuple juif. C'est le peuple juif en premier. Et en second, bien sûr, il y a l'humanité tout entière. Donc prendre soin de l'humanité, ça c'est le cœur de Dieu. Ça fait partie de l'adoration. Ça fait partie de l'adoration. Et parfois, si nos œuvres nous conduisent à tellement d'activisme, il est bon de les arrêter. Il est bon de les arrêter. Et ce n'est pas un péché de le faire. Et au réseau RNC, il y a eu des témoignages comme ça, d'églises qui se sont engagées dans des œuvres, etc. Et puis à un moment, l'œuvre, elle prenait le dessus, surtout. Et ils ont dit, on pense que c'est sage maintenant d'arrêter. Et de recommencer plus tard. Mais vous voyez, il y a un temps pour tout. Et j'aimerais attirer l'attention sur le fait d'accueillir l'humanité. Et quand on accueille cette humanité, des hommes, etc., qu'on en prend soin, eh bien c'est comme si on le faisait pour Jésus. 1 Pierre 4, 10. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » En fait, les œuvres, c'est vraiment l'incarnation du royaume. Et quand on dit que ton règne vienne, Seigneur, eh bien ce règne, il vient au travers des œuvres que Dieu met dans le cœur des uns et des autres. C'est les idées que Dieu nous donne, c'est dans les temps d'adoration, d'intimité. Et ces idées, Dieu les fait maturer en nous, mûrir, et petit à petit, ça devient une œuvre. Que votre lumière, Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parfois, la motivation d'une œuvre, c'est quoi? C'est pour être vu. À ce moment-là, ça ne va pas durer. Pour être connu, ça ne va pas durer. Pour avoir vraiment la faveur des autorités, ce n'est pas des motivations suffisantes. Jésus nous réajuste. Le monde doit voir nos bonnes œuvres, mais non pour être vu, nous. Les pharisiens, ils faisaient tout pour être vus. Ce n'est pas ça. Il peut y avoir un légalisme sous prétexte du royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous motive? Ce que les hommes voient? La finalité, c'est qu'ils voient et glorifient Dieu. Donc le but de l'incarnation du royaume, c'est manifester la bonté de Dieu. Un jour, Moïse disait, fais-moi voir ta gloire, et Dieu lui dit, regarde ma bonté. La Bible dit pareil, elle dit, par les œuvres, les hommes verront la gloire de Dieu. Ils glorifieront le Père qui est dans les cieux. Ça, c'est impressionnant. Donc, les œuvres sont l'incarnation. Nous sommes ici, en tant qu'Église, et Caleb AFP, c'est un immense ventre avec plein d'idées et plein d'œuvres. Il y en a qui sont mûrs, je pense à l'établissement Daniel, mais il y en a qui mûrissent et il y en a qui ne sont pas encore nés. Mais ces œuvres, le but, c'est qu'elles glorifient Dieu. Et ces œuvres sont des actes d'adoration. Et ces œuvres, attention à ne pas les considérer comme à l'opposé de l'adoration. Parce que sinon, on ne verra jamais une incarnation. Donc, l'ennemi ne veut pas que les choses s'incarnent. Il ne veut pas qu'elles s'incarnent. Donc, il va nous mettre dans la tête que les œuvres, c'est beaucoup moins important que l'adoration. Mais je rappelle, l'œuvre est une adoration. Ça doit être une adoration. Si ça ne l'est pas, il faut l'arrêter. Mais l'œuvre, elle découle, parce qu'elle est là. Les œuvres préparées d'avance, nous sommes créés pour les œuvres. On n'est pas sauvés par les œuvres, mais on est créés pour des œuvres. Et chacun d'entre nous, il y a des œuvres préparées d'avance. Et la mission de ta vie, c'est de la trouver, que ça corresponde à ton don, et d'y rentrer. Et c'est comme ça que l'œuvre, elle incarnera. Vous savez, je termine dans la terminologie biblique, le mot œuvre, Jean 17,4, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et Jésus, il parlait quoi? La rédemption. 1 Corinthiens 15, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. Donc là, les œuvres, c'est tout ce que nous faisons ici, à quelque échelon que ce soit. Tite 2,14, les œuvres, c'est don de grâce. Un peuple purifié par lui, et zélé, pourquoi? Pour les bonnes œuvres. C'est impressionnant quand même. Éphésiens 2, on l'a déjà dit. Donc voyez, par la grâce de Dieu, il agit dans nos vies, il nous fait découvrir sa bonté, et plus il y a cette grâce dans nos vies, qu'est-ce qui va se passer? Plus les œuvres vont se multiplier. C'est vraiment ça. Et ça va demander sagesse, administration. Jacques 2, 17-18, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Et plus loin, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Donc les œuvres, c'est l'expression de la foi. C'est ça la définition. C'est une expression de la foi, d'une confiance de Dieu, d'une vision du royaume. En fait, quand on prie que ton règne vienne, on aspire à voir l'incarnation du royaume au travers d'œuvres. Donc renonçons aux œuvres méritoires, bien sûr. On ne mérite rien. Et ça, on doit le renoncer totalement. C'est des œuvres mortes, dit la Bible. Mais Jacques dit, la foi est rendue parfaite par les œuvres. C'est impressionnant, ça. Tu veux avoir une foi qui devienne parfaite, alors tu la rends parfaite par les œuvres. C'est ce que Jacques dit. D'ailleurs, il a été controversé, Jacques. Il y a un moment, au niveau de la réforme, cet épître gênait un peu, parce que ça pouvait avoir l'air d'être contre la justification par la foi seule. Mais ça ne met pas en opposition, ça complète. Et voyez, qu'est-il dit d'Abraham, par exemple? Qu'a fait Abraham? Il a obéi, il s'est mis en route, il a adoré, acte d'adoration. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. La Bible dit, Jacques dit que ça c'est une œuvre. C'est quoi l'œuvre? C'est l'obéissance de la foi. Voyez? Donc l'œuvre, c'est l'obéissance de la foi. Les œuvres que Dieu demande, elles sont toujours, elles dépassent notre entendement. Et Dieu nous demande l'opposition, l'acte d'adoration et la foi, l'obéissance de la foi pour incarner ses œuvres. Donc la lecture que nous avons faite de Marthe et Marie ne souligne pas d'opposition. D'accord? C'est une question de priorité et c'est une question de vision. Et Dieu honore autant celui qui prend soin de la divinité que celui qui prend soin de l'humanité. Parce que Dieu est non seulement dans le ciel, mais il est aussi sur la terre, au travers de son corps, et au travers de chaque homme et chaque femme, même non chrétien, qui est image de Dieu. Et quand on en prend soin, on prend soin de la nature humaine. Et Dieu glorifie un peuple qui a les Marthe et les Marie. Une église où il fait bon de venir parce que c'est accueillant, parce que c'est beau, parce que c'est sympa, parce qu'on y mange bien, parce qu'il y a des agapes, parce qu'on y boit bien. Moi je rêve et ça vient bientôt, mais cette entrée en bas là, avec le café qu'on peut prendre ensemble, avec le pot qu'on peut boire ensemble à la sortie, il faut qu'on aménage, il faut qu'on accélère, il faut qu'on... Voilà. Mais que ça ne vienne pas parce qu'il faut, il faut, mais que ça vienne parce qu'on a une vision. Et cette vision, c'est accueillir l'humanité et la divinité ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les Marthe et les Marie. Merci pour les temps où tous ensemble, on doit être dans l'intercession et l'adoration. Merci pour les temps où tous ensemble, on est dans la préparation aussi. Et Seigneur, nous ne voulons pas opposer les deux. Mais merci parce que toute notre vie peut être un acte d'adoration. Soit en pensée, soit en adoration, en prière, soit en action. Merci pour les oppositions que tu as brisées, les murs de séparation que tu fais tomber. Et merci parce que tout est acte d'adoration. Même un mariage. Merci Jésus. Amen.